RFI, grand reportage, Laurence Adou.
C'était il y a tout juste 25 ans, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique, aujourd'hui en Ukraine. Jusqu'à Fukushima, il y a un peu plus d'un mois, c'était la pire catastrophe nucléaire qu'ait connue l'humanité. 25 ans plus tard, en Ukraine, les commémorations de cet anniversaire ramènent à la surface des blessures, des non-dits, qui, au-delà des séquelles physiques inquantifiables, sont les conséquences les plus vives de ce drame. Difficile aujourd'hui encore de parler de Tchernobyl, au-delà des discours officiels qui glorifient le sacrifice des dizaines de milliers de liquidateurs et passent le reste sous silence. Ce silence pourtant est brisé par certains, des artistes notamment, pour qui Tchernobyl a été un traumatisme si fort qu'il a transformé leur vie et leur création. L'art pour aller au-delà des silences de Tchernobyl, grand reportage en Ukraine, signé Camille Magnard. Camille que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure.
Nous sommes au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, à moins de 5 km du réacteur numéro 4, celui qui a explosé le 26 avril 1986. La ville fantôme de Pripyat, évacuée en quelques jours, condamnée depuis 25 ans, sert de décor au tournage de La Terre outragée, un film français réalisé par la franco-israélienne Michal Boganim. La tête d'affiche de ce film, c'est l'Ukrainienne Olga Kurylenko, elle qui a quitté l'Ukraine à 16 ans, soit 10 ans après Tchernobyl, a insisté pour jouer ce rôle de femme dont la vie a été brisée par la catastrophe.
Mon personnage, donc, comment dire, en fait, l'histoire commence par le jour où elle s'est mariée, elle est très jeune, et en fait, c'est le jour où il y a l'explosion. Et donc après, on voit 10 ans plus tard comment ça a changé sa vie. Elle est guide pour les touristes français. Elle a été touchée, bien sûr. C'est une femme qui avait beaucoup d'espoir, qui voulait avoir des enfants et faire une famille. Et en fait, bon, ça n'arrive pas. Et en fait, elle n'a jamais oublié ça. C'est un traumatisme qu'elle porte. Et on voit juste comment elle essaie de vivre malgré ce choc.
C'est aussi représentatif d'un choc qui est là, qui était un peu invisible, un peu refoulé, mais qui est quand même... Toujours très présent aujourd'hui?
Moi, je pense, mais les gens n'en parlent pas comme ça. C'est quelque chose qui porte à l'intérieur. C'est vrai que ouais, les gens ne parlent plus. C'est devenu normal. Ils ont accepté.
Laetitia Gonzalez est la productrice du film.
Moi, quand j'ai commencé à parler de ce projet, c'est fou à quel point les gens ont tous la mémoire de ce moment-là. En fait, ça fait partie de l'histoire collective. Tout le monde s'est fixé ça dans sa mémoire. Et finalement, tu te rends compte qu'un film là-dessus, ça me paraissait comme une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu. Moi, quand on m'a dit que c'était il y a 25 ans, je me suis dit « Waouh, c'est autant que ça !» J'ai l'impression que c'était hier. C'est-à-dire que c'est un marqué. Et je pense qu'on n'en a pas assez parlé et qu'on n'en parle pas assez. Tu te balades ici, c'est impressionnant, c'est figé par le temps. Là, ce qu'on vient de voir là, à l'école, c'est quand même très fort, quoi. Tu vois, rien n'a bougé. Tu sens vraiment l'idée de l'urgence d'un jour où tout le monde est parti et que tout, rien n'a bougé. Je veux dire, t'as les cahiers, t'as les tables, t'as la destruction du temps qui a travaillé. Et en même temps, effectivement, les gens avec qui on travaille, tous sont marqués par cette histoire-là. T'en as certains avec qui on bosse, qui sont de cette région-là, qui te racontent qu'ils ont des visites médicales tous les 6 mois, c'est obligatoire. Donc ça fait partie, les gens vivent avec ça. C'est pas comme une guerre ou comme un génocide qui a duré un temps et qui s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Là, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas pendant des milliers d'années. La Terre est pourrie pour des milliers d'années. Et donc, c'est une histoire qui est tout le temps là. C'est une cicatrice qui est ouverte à jamais, de toute manière.
Cette photo-là est très célèbre parce qu'on y voit la famille du pompier Pravik, qui est l'un des premiers à être mort à Tchernobyl et à avoir été reconnu héros de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la plupart sont morts, mais je reste en contact avec cette famille parce qu'à un moment, on leur a attribué une maison auprès de Kiev, où ils ont vécu quelques années. Dans une des chambres, la mère avait ouvert un petit musée en l'honneur de son fils. Voilà, c'est un exemple typique de photo de l'après-Tchernobyl. Je l'ai prise en 1986.
En avril 1986, Viktor Marouchenko était jeune reporter photo pour un magazine soviétique. Il a été parmi les premiers à se rendre près de la centrale de Tchernobyl et à en ramener des clichés. Aujourd'hui, il est l'un des photographes les plus célèbres à Kiev.
Avec le temps, les thèmes ont varié pour illustrer Tchernobyl. Au début, on s'est intéressé à la centrale, à son sort. Ensuite, on a photographié la zone interdite. À une époque, on a beaucoup parlé des sans-abri qui arrivaient de toute l'URSS pour vivre dans la zone, récupérer des maisons vides et vivre de chasse et de cueillette. Et la dernière fois que j'y suis retourné, c'était pour un reportage sur la chasse dans la zone d'exclusion. C'est très à la mode. Il y a des braconniers qui arrivent là-bas avec des autorisations qu'ils ont achetées. Il y en a même parfois qui débarquent dans la zone en hélicoptère. Ils tirent sur tout ce qui bouge et il n'y a aucun contrôle sur ce que devient la viande qu'ils rapportent de la zone. Mais je ne vais plus là-bas maintenant. Vous comprenez, ça ne m'intéresse plus. Il y a tellement de photographes du monde entier qui y ont travaillé que c'est devenu un cliché pour nous. D'ailleurs, il y a quelques mois, une galerie de Berlin m'a demandé ce que je préparais pour les 25 ans de la catastrophe. Je lui ai répondu rien. En fait, j'avais même oublié que c'était les 25 ans cette année.
Et vous pensez que les Ukrainiens ont oublié cet anniversaire ?
Pas oublié, non, mais ils ne veulent plus en entendre parler. Vous comprenez, qu'est-ce que ça a d'actuel par rapport à leur vie quotidienne ? Le danger ? Bien sûr, mais les gens ne veulent plus qu'on leur rappelle qu'ils vivent avec ce danger. Et puis, ils ont tellement peu d'informations, les sujets de reportage ne manquent pas autour de Tchernobyl, mais les gens en ont assez des images chocs, des informations anxiogènes, et pas seulement dans la photo. C'est pareil pour la littérature. Les gens veulent des choses positives.
Мало проблемных, да, таких все хотят позитив.
Je m'appelle Sergueï Mirny. À l'été 86, j'ai travaillé comme chef d'une équipe de liquidateurs dans la zone de Tchernobyl. Et à côté de ça, je suis devenu écrivain. J'écris plusieurs romans et des essais sur l'état de santé des liquidateurs de Tchernobyl. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite compris qu'il me faudrait raconter tout ça. Bien sûr, j'ai laissé une partie de ma santé à Tchernobyl. J'ai le souvenir que c'était dur, le jour, la nuit, pendant les 35 jours que j'ai passé dans la zone. Quand je suis rentré chez moi, je suis resté au lit pendant 6 mois avant de reprendre ma vie. J'ai compris à ce moment-là que cette expérience de Tchernobyl dépassait le cadre de la catastrophe elle-même et qu'elle était un concentré de vie humaine. Et, dans l'Union soviétique de l'époque, une naissance de la notion d'individu.
Fort de son expérience de liquidateur et de scientifique, Sergueï Mirny est devenu l'un des spécialistes de Tchernobyl dans la littérature ukrainienne. Sa bibliographie compte des romans, des pièces de théâtre et même des comédies sur la catastrophe. Le rire pour parler d'une tragédie souvent tue. La démarche a fait polémique au début, mais les pièces tragicomiques de Sergueï Mirny sont aujourd'hui reconnues pour avoir, d'une certaine manière, libéré la parole sur Tchernobyl.
Ces livres ont marqué une nouvelle étape du travail artistique sur la mémoire de la catastrophe et de sa compréhension. Selon moi, c'est l'étape de la victoire sur cette mémoire. Avant, dans les premiers temps, on entendait des choses comme « Comment pouvez-vous écrire sur Tchernobyl ? Il n'y a pas de mots pour exprimer la catastrophe », etc. Bref, il y avait cette idée qu'il était impossible de comprendre Tchernobyl, que c'était un phénomène presque mystique ou cosmique. Et quand j'ai écrit ces livres, ces romans ou ces essais sur Tchernobyl, ça a été une vraie victoire artistique et culturelle. Ça voulait dire, voilà, Tchernobyl est un phénomène que l'on a compris. On sait à présent ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. On connaît la chaîne de responsabilité politique. Il faut en finir avec cette idée selon laquelle la catastrophe serait comme une île isolée du reste du champ culturel. Et en disant cela, on a réussi à ramener l'histoire de Tchernobyl dans le champ des expériences marquantes de notre civilisation.
Comme la littérature, la peinture et les arts visuels ont très tôt voulu aussi s'emparer du discours sur la catastrophe. 25 ans plus tard, l'art contemporain ukrainien est très profondément marqué par le traumatisme psychologique de Tchernobyl, qui est devenu l'un de ses principaux moteurs pour la création. Nous arrivons chez Valery Goleyko, peintre et fondateur du groupe d'artistes Strontium 90, du nom d'un élément radioactif utilisé dans les centrales soviétiques. C'est un petit appartement vétuste d'un quartier de banlieue de Kiev, une triste cité dortoir où ont été relogés des milliers d'habitants de la zone d'exclusion après avril 86.
Comme il a appris que nous étions la veille dans la zone, Valérie tient absolument à vérifier que nous ne sommes pas radioactifs avec son compteur GGR personnel. Le traumatisme de Tchernobyl a changé la vie du peintre. Depuis, il refuse de faire le moindre travaux dans son appartement et en 2000, il a décidé de vivre sans électricité. Avec ses comparses Tatiana Chebrova et Alexis Breus, il a lancé en 1990 un mouvement artistique qui s'inspire du choc et de l'urgence créé par la catastrophe.
Depuis Tchernobyl et pendant toutes les années 90, j'ai eu un sentiment de révolte intérieure qui ne m'a plus jamais quitté. Depuis, j'essaye pour moi-même de répondre à cette question. Comment réagir à une catastrophe aussi colossale? Moi, je suis un artiste underground, comme on dit. À l'époque soviétique, les peintres libres comme moi n'avaient pas le droit d'exposer leurs travaux. On le savait, mais ça ne nous empêchait pas de créer pour protester. Et donc, au début des années 90, j'ai commencé à réunir des artistes comme moi. Notre première rencontre a eu lieu le 26 avril 1991. C'était une tentative pour nous de penser Tchernobyl à travers les arts visuels. C'était ça, notre première réaction spontanée à la catastrophe de Tchernobyl.
Je me souviens très bien de Tchernobyl, j'ai deux enfants et à l'époque ils avaient 2 et 4 ans. Et les enfants de cet âge n'ont pas été évacués, seulement les écoliers. Et donc nous sommes restés tout le temps de la catastrophe à Kiev. C'était horrible, nous étions terrifiés, on ne savait rien, on pensait qu'on serait mort dans quelques mois. Pour moi, cette année 86 est synonyme de peur et de profonde dépression. Et cet état s'est prolongé jusqu'à ce que je rencontre Valérie, que nous commençons à parler de tout ça et que je peigne mon premier tableau avec lui. C'était une Madone d'été, mais elle a un deuxième nom, la Madone de Tchernobyl, car elle est clairement marquée par la catastrophe. Et grâce à l'art, j'ai compris que je pouvais me libérer de cette douleur. Pas juste une sublimation, le fait de se débarrasser de sa douleur et de la donner à quelqu'un d'autre. Mais la peinture a ce pouvoir de désamorcer le mal, de le rendre inoffensif pour soi et pour ceux qui regardent le tableau. Et donc, il n'est pas nécessaire de peindre des horreurs. Mes tableaux, au contraire, sont très lumineux, très doux. L'idée importante de notre démarche, c'est la transformation de la réalité par l'art, l'amour et la fantaisie.
Alexei Breus, le troisième homme de Strontium 90, est sans doute celui qui a été le plus marqué par la catastrophe. La veille de l'accident, encore, il travaillait comme opérateur au réacteur numéro 4.
L'été avant la catastrophe, avec ma femme, nous nous étions mariés à Pripyat, où nous vivions. Nous avions étudié ensemble à la faculté de l'énergie nucléaire, et notre professeur était l'académicien qui avait conçu le réacteur de Tchernobyl. C'est dire si nous le connaissions bien. Et donc, à notre mariage, étaient invités Léonid Toptounov et Sacha Akimov. Le premier travaillait comme opérateur du réacteur numéro 4, la nuit où l'accident s'est produit, et le second a géré les opérations qui ont conduit à l'explosion. À l'époque, on ne se doutait pas qu'un an plus tard, il ne serait plus à Pripyat, mais au cimetière de Mitinskoye, à Moscou. Moi, le jour de l'accident, j'aurais dû prendre mon poste dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4 au petit matin, et donc je me suis présenté. Et à cause de l'explosion, je suis resté travailler toute la journée. Je travaillais sur le réacteur numéro 4, je tentais d'arrêter ce qui pouvait l'être, et je devais aussi surveiller le réacteur numéro 3. Avec mes collègues, notre objectif premier était d'injecter de l'eau dans le réacteur en fusion. Voilà mon histoire et mon lien avec Tchernobyl.
À 1h23, le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie avant d'atteindre l'Amérique du Nord.
25 ans après, la jeunesse ukrainienne se passionne pour le jeu vidéo Stalker qui se déroule dans le décor apocalyptique de la zone d'exclusion. Les jeux vidéo, la science-fiction ou les documentaires à la gloire des liquidateurs, voilà à peu près les seules sources d'informations que les jeunes générations ont à leur disposition pour savoir ce qui s'est passé ici en 1986 et ce qui continue de se passer partout autour d'eux. «
Le groupe de métal Delia, lui, a dédié sa chanson « Mertvi Mesto », « Ville morte » en ukrainien, aux habitants évacués de la ville de Pripyat, à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Ce n'est pas un hasard, la chanteuse du groupe, Nastia Verkhunova, est l'une de ses enfants déracinés de Pripyat.
Ma famille et moi avons été évacués de Pripyat, mais je ne m'en souviens pas vu que j'avais moins d'un an. Mais mon père m'a raconté. Lui, il travaillait à la centrale avant l'explosion. Et il y travaille encore. Il a été envoyé comme liquidateur après l'accident. Bien sûr, c'est une histoire tragique qui me touche au plus près et dont on continue à parler souvent en famille. On se rappelle notre vie d'avant dans cette ville à Pripyat. Et donc oui, ça a inspiré ma chanson. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire un texte sur tout ça, que j'ai dédié aux familles, aux enfants, à tous ceux qui ont enduré cette tragédie. La chanson s'appelle « Ville morte » et nous avons tourné le clip dans la zone d'exclusion dans la ville de Pripyat. C'était vraiment impressionnant, cette ville vide, silencieuse. Pendant le tournage, nous avons retrouvé ma rue et l'immeuble où je vivais. On n'a pas pu monter dans l'appartement car tout est détruit et pillé. Mais on a tourné devant, c'était très fort pour moi. Cette chanson, elle dit que le souvenir de notre ville n'est pas mort, que nous sommes toujours en vie et que nous n'oublions pas, que le deuil n'est pas terminé.
L'art au-delà des silences de Tchernobyl, un reportage de Camille Magnard, réalisation Ludivine Amado.
Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. On dit souvent que Tchernobyl a été l'un des éléments qui ont précipité la chute de l'URSS 5 ans plus tard. La catastrophe a aussi été un séisme culturel pour toute l'Union soviétique.
Oui, c'est vrai, on a pu l'entendre dans le reportage avec les peintres du collectif Strontium 90, mais bien au-delà de leur démarche, c'est toute une nouvelle génération d'artistes contemporains hantés par la catastrophe qui a émergé. C'était des artistes considérés comme dissidents, loin des académismes très politiques de l'Union soviétique. Tchernobyl et son onde de choc, la manière dont elle a mis au jour les mensonges, les erreurs du pouvoir, tout cela a créé un raz-de-marée de protest art qui a fait irruption dans les galeries, dans les journaux et a donc contaminé le débat public, un vrai bouleversement des mentalités dans une Union soviétique qui était déjà fragilisée. Et donc, ce bouleversement des mentalités a joué un vrai rôle pour précipiter la déliquescence de la société soviétique.
Alors Camille, vous commencez votre reportage sur le tournage d'un film français qui prend Tchernobyl comme sujet et comme décor. Et c'est le premier film de fiction qui aborde de front la catastrophe. Comment expliquer qu'en 25 ans, le cinéma ne soit pas emparé de l'histoire de Tchernobyl?
Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le fait que les Ukrainiens qui vivent avec Tchernobyl depuis 25 ans ne veulent pas forcément en plus voir Tchernobyl au cinéma. Les comptes sont loin d'être réglés avec la catastrophe et on a préféré enfouir pas mal de choses plutôt que les aborder de front. Il y a donc une forme de résilience, de fatalisme qui s'est installée et ça donne des discours parfois très cyniques comme celui que j'ai pu entendre à Kiev en discutant avec un producteur ukrainien de cinéma. Il me disait en clair que Tchernobyl, eh bien, ce n'était finalement pas grand-chose, pas de milliers de morts violentes, pas d'effusion de sang, pas de drame cinégénique, donc pas vraiment le genre d'histoire qui pourrait intéresser un grand studio hollywoodien. Et puis il faut dire aussi que depuis la chute de l'URSS, l'industrie du cinéma ukrainien est au bord de la faillite. Mais pour être tout à fait complet, il faut dire qu'il y a un autre film de fiction sur Tchernobyl qui a été tourné cette année, une production russe qui a été présentée au Festival de Berlin en février. Mais là aussi, il aura fallu attendre 25 ans, un quart de siècle, pour que le cinéma ne s'empare de la catastrophe.
Les commémorations demain des 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl ont un écho particulier avec ce qui se passe actuellement au Japon, en Ukraine. Est-ce qu'on fait des parallèles avec ce qu'on a vécu après 1986?
Oui, en Ukraine, on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Japon, mais sans forcément faire tous les parallèles qui s'imposeraient. Les témoignages de solidarité des Ukrainiens sont très nombreux pour les victimes de Fukushima. Le discours qui domine, c'est de dire c'est dur pour les Japonais, nous depuis le temps on est habitués, mais eux, il faut les aider. Et puis j'ai envie de vous répéter ce que m'a dit sur ce sujet la réalisatrice du film La Terre Outragée, Michal Boganim. Elle termine en ce moment même le montage du film à Paris et elle me disait qu'elle est choquée de revoir aux nouvelles depuis un mois et demi précisément ce dont parle son film. Cette histoire dont on pensait qu'elle appartenait au passé, mais qui se révèle d'une actualité brûlante. Le film de Michal évoque l'incapacité des hommes à gérer la technologie nucléaire. Il montre les conséquences des années plus tard. Et l'on voit à Fukushima qu'on refait les mêmes erreurs, qu'on applique les mêmes recettes à la va-vite. Et tout ça laisse imaginer qu'on aura sans doute dans 25 ans à se poser les mêmes questions à Fukushima qu'aujourd'hui à Tchernobyl.
Camille Magnard, merci beaucoup. Au micro, Laurence Adou. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et d'ici là, travaillons à la beauté des choses.